troisième temps de notre série d'émissions sur le bac d'histoire en compagnie de professeurs et d'élèves dans le cadre de l'opération de France Culture Bac 2017, mention France Culture, à laquelle participent les Chemins de la philosophie juste après cette émission, la méthode scientifique et la compagnie des auteurs cet après-midi, donc dans l'après-midi sur France Culture, et de Cause à effet, l'émission d'Aurélie Nuno le dimanche à 16h. Après vous avoir parlé lundi du thème « Gouverner la France », puis mardi de la puissance américaine dans le monde, et hier et avant-demain d'évoquer le projet d'une Europe politique, nous nous arrêterons ce matin sur la guerre d'Algérie telle qu'elle est enseignée en terminale STMG et en première ES. Pour cela, après un reportage sur les lieux du massacre du métro Charonne à Paris en 1962, reportage signé Anaïs Quien et Véronique Samouilov, nous écouterons le plan de Sylvain Boulouk, professeur au lycée Gustave Eiffel de Rueil-Malmaison. Bonjour Sylvain Boulouk.
Bonjour.
Merci d'être avec nous donc pour cette émission consacrée dans le cadre de nos émissions du bac à la guerre d'Algérie. Cette question est différente pour ceux qui la traitent, puisqu'on traite habituellement dans les séries générales de la mémoire de la guerre d'Algérie ou des mémoires de la guerre d'Algérie. Et pour la série STMG, c'est la guerre d'Algérie elle-même qui est traitée.
La guerre d'Algérie plus la mémoire de la guerre d'Algérie en fin de cours sur la guerre d'Algérie.
Alors évidemment, pour parler de cette question de la mémoire de la guerre d'Algérie, nous avons choisi un moment très fort, peut-être un peu oublié par certains de nos concitoyens aujourd'hui, à savoir le massacre du métro Charonne en 1962. Et pour cela, Anaïs Quien s'est rendue avec, à la prise de son, Hélène Langlois et à la réalisation Véronique Samouilov, sur le lieu du métro Charonne à Paris. On écoute son reportage et on le commente ensuite.
Qu'est-ce qui peut nous parler de Charonne ?
Personne. L'année dernière, en février, le 8 février, ça vous dit plus rien ?
Si,
moi, en février, j'étais malade. Pascal, tu veux nous expliquer ce qui s'est passé?
C'était quand il y avait tous les plastiques à Joës, dans Paris. Il y avait eu une manifestation contre les attentats. On habitait boulevard Voltaire à l'époque. C'est comme ça que j'ai vu tout ce qui s'est passé. Il y avait beaucoup de monde. Avec mon père, on était sur le balcon. On criait des slogans avec les manifestants. C'est quand les gens ont commencé à partir que les flics ont chargé. Ils sont devenus complètement enragés. Ils sont mis à cogner dans tous les sens. Mon père a fermé la fenêtre. Même avec les fenêtres fermées, on entendait les gens crier. Quand on est ressorti, il n'y avait plus personne. Et par terre, il y avait des chaussures. Plein de chaussures. Sur les trottoirs. Dans les caniveaux. Il y avait des gens qui les ramassaient.
Tramorque-et-Ménor, on se trouve sur la place du 8 février, au croisement du boulevard Voltaire et de la rue de Charonne, où s'est passée cette fameuse manifestation qui est restée dans les mémoires comme un symbole d'une des plus grandes violences policières dont on parle encore aujourd'hui. Que s'est-il passé ce jour de 8 février 1962 ?
Une manifestation anti-EAS a été violemment réprimée par les forces de l'ordre. C'est une manifestation qui a été interdite. Les manifestations à la fin de la guerre d'Algérie, et plus largement pendant la guerre d'Algérie, ont beaucoup été interdites. Donc on s'est trouvé face à plusieurs dizaines de milliers de manifestants qui ont pris différents points de la capitale, plutôt dans l'est parisien, autour de la Bastille, de Nation, Hôtel de Ville et République. Et donc plusieurs manifestations ont convergé vers un point, se sont trouvées justement à l'angle de la rue de Charonne et de la rue Voltaire, et donc ont été violemment chargés par les forces de l'ordre. Donc 9 personnes sont décédées des suites de cette manifestation dans une décharge de violence extraordinaire des forces de l'ordre.
Qu'est-ce qu'on sait exactement de ce qui s'est passé autour de cette bouche de métro qu'on a devant nous, de cette bouche de métro qui mène donc à la station Charonne ?
Alors, c'était donc une manifestation interdite, c'est-à-dire que les manifestants devaient se disperser très rapidement. Ce qui fait que deux porte-paroles ont pris très brièvement la parole pour lire un petit texte et donc ordonner cette dispersion ensuite. Et juste à ce moment-là, en fait, au moment où les personnes commençaient à se retourner et à refluer, à se disperser, les forces de l'ordre ont chargé par derrière. Du coup, les gens ont dû se réfugier là où ils pouvaient. Et pour certains d'entre eux, ils se sont réfugiés dans les portes cochères, dans des immeubles, où ils ont été poursuivis même. Et donc pour une partie en fait, des manifestants, un des lieux les plus simples pour se réfugier le plus rapidement possible, c'était dans cette bouche de métro, métro Charonne donc. Et le problème, c'est que dans cette fuite en avant des manifestants, évidemment plusieurs personnes sont tombées. Et au fur et à mesure, les gens sont tombés les uns par-dessus les autres, au point que toute la bouche de métro a été bouchée par des gens effondrés les uns sur les autres. Donc on a plus d'une quinzaine de couches de personnes, les unes sur les autres, et en plus sur lesquelles les forces de l'ordre se sont acharnées. Donc on a eu plus de 250 personnes qui ont été blessées au cours de cette charge qui a duré une vingtaine de minutes à peu près. La violence a été même tellement forte que les gens qui étaient aux fenêtres à regarder s'en sont pris aux forces de l'ordre et ont commencé même à jeter des choses sur les forces de l'ordre en leur demandant d'arrêter, en disant que c'était des assassins, etc., etc. On est au-delà d'une violence véritablement de répression, de la violence légitime des forces de l'ordre. Et on passe dans une autre dimension de violence complètement exacerbée. Et en plus, effectivement, au-delà de ça, certains se sont acharnés sur les personnes en prenant du mobilier urbain, alors les grilles d'aération du métro, encore plus lourd, la fonte qui entoure les arbres, les grilles des arbres, c'est quelque chose qui fait plusieurs kilos de fonte. Donc on a trois morceaux de ces pieds d'arbres en fonte qui ont été lancés sur les manifestants, qui ont vraisemblablement tué des gens aussi.
Qu'est-ce qui explique la violence de cette répression, Tramor Kemener?
D'une part, ce sont des compagnies d'intervention particulières qui ont été créées au début des années 50, en pleine guerre froide, par un préfet de police qui est justement violemment anticommuniste et qui est chargé, lui, de réprimer véritablement le parti communiste dans cette guerre froide. Donc ça, c'est un premier élément. Et donc ces compagnies d'intervention sont des unités qui sont un peu à part.
Ce ne sont pas des CRS.
Ce ne sont pas des CRS. Donc on trouve donc dans ces compagnies d'intervention des personnes qui sont rentrées en fait dans la police et dans ces compagnies d'intervention à la fin de la guerre d'Indochine et au retour également de l'Algérie. Donc on a ici une répression qui est mise en place et qui vise un petit peu dans un cadre de décolonisation qui vise à réprimer toutes les personnes qui sont favorables à cette décolonisation. Un niveau, on va dire, anticommuniste. Deux, un niveau répression anticoloniale. Et donc, dans les violences de la fin de la guerre d'Algérie, on a un déploiement de plus en plus fort et des tensions internes au camp français qui divisent de plus en plus et on se rapproche de plus en plus d'une situation de quasi-guerre civile, en quelque sorte, avec des personnes qui sont favorables à l'OAS au sein des unités de répression et au sein de tout la politique en règle générale, mais qui déploie en fait une violence favorable à l'Algérie française de plus en plus forte.
14 février 1962.
La campagne du plastique continue. La liste des explosions s'allonge. L'OAS comprendra-t-elle la criminelle folie de ces méthodes aveugles qui heurtent toutes les consciences? Passant outre à l'interdiction de toute manifestation, formulée et réitérée par le gouvernement, certains partis et groupements ont voulu manifester à la Bastille contre l'action de l'OAS. Des forces policières nombreuses avaient été massées pour faire respecter la décision du gouvernement. Et de sérieuses échauffourées se déroulèrent entre services d'ordre et manifestants, laissant le triste bilan de 8 morts et de 150 blessés.
Par qui est organisée cette manifestation ?
La manifestation, c'est une manifestation plus généralement justement antifasciste contre l'OAS. C'est plutôt le déchaînement de violence de l'OAS qui surgit de partout, qui vise à la fois tout le monde et en même temps des cibles particulières de journalistes, d'écrivains, etc., d'intellectuels, parfois d'avocats, et qui en même temps...
qui sont des militants anticoloniaux.
Et qui sont des militants anticoloniaux, effectivement.
Rappelez-nous ce qu'est l'OAS, Tramor Kemener.
Alors, l'organisation armée secrète a été créée en février 1961 par d'anciens militaires qui étaient réfugiés en Espagne franquiste, notamment le général Salan. Donc, cette organisation armée secrète visait à parvenir à conserver au sein du giron français l'Algérie, coûte que coûte, par tous les moyens. Et donc c'est une organisation terroriste qui a été créée à ce moment-là et qui a véritablement pris son ampleur à partir d'avril 1961 à Alger, où là, ils ont pu, avec le putsch des généraux, qui visait donc à renverser le pouvoir en Algérie et même en France, le pouvoir du général de Gaulle, pour mettre en place un régime qui serait favorable à l'Algérie française.
Alors revenons à notre manifestation. Le mot d'ordre de ce rassemblement du 8 février 1962, c'est la paix en Algérie, la fin de la guerre d'Algérie. Et la majorité des organisations qui appellent à ce rassemblement sont des syndicats, des partis politiques et beaucoup d'ailleurs de membres du Parti communiste.
Effectivement, c'est un mot d'ordre général, qui est un peu le mot d'ordre d'ailleurs du Parti communiste. Mais le Parti communiste n'est pas le seul parti à appeler cette manifestation-là. Donc c'est un très gros parti qui draine énormément de militants à cette période-là. Mais il y a également le Parti socialiste unifié, le PSU, donc, qui est né de la guerre d'Algérie. Donc voilà, deux partis qui appellent à cette manifestation du 8 février, plus des syndicats, la CGT, évidemment, très proche du Parti communiste, et puis le SGEN également, donc le syndicat général de l'éducation nationale, le SNI, le syndicat national des instituteurs, et une autre grosse centrale syndicale, la CFTC, donc la Confédération française des travailleurs chrétiens. Donc on va dire, ce n'est pas simplement le Parti communiste qui appelle à cette manifestation-là, même si toutes les personnes qui sont décédées au cours de la manifestation étaient affiliées à la CGT, et 8 des 9 personnes étaient membres du Parti communiste.
Et quel est le problème avec le communisme à l'époque, Tramor Kemener? On a la sensation que cette lutte du gouvernement français de 1962 contre tous les désordres liés à la guerre d'Algérie se superpose avec un combat peut-être plus obscur contre le communisme sur le territoire français.
Oui, alors une partie de l'armée française est convaincue, et on pourrait dire, et même reste convaincu jusqu'à aujourd'hui, que dans cette pensée de la guerre contre-révolutionnaire, qu'en fait derrière la guerre d'Algérie se cache l'Union soviétique. Et donc le Parti communiste est un allié objectif et vise à l'instauration donc du communisme en Algérie, et que si l'Algérie tombe, ce sera toute la France qui tombera derrière, puisque dans un large mouvement de tenaille, l'Europe occidentale serait encerclée par les forces communistes qui arriveraient donc à prendre le pouvoir en France. Alors que le Parti communiste reste finalement très en retrait dans la lutte contre la guerre d'Algérie, et donc le Parti communiste, de ce point de vue-là, n'a pas vraiment véritablement pris une action d'avant-garde contre la guerre d'Algérie et en faveur de l'indépendance algérienne.
À ses 8 victimes, Paris a fait les funérailles les plus éloquentes. De la Bourse du Travail, où les cercueils avaient été exposés et avaient reçu un premier hommage, jusqu'au cimetière du Père Lachaise, une foule immense dont le nombre peut s'évaluer à plusieurs centaines de milliers de personnes a suivi le cortège. Cortège silencieux, seulement ponctué des accents d'une marche funèbre et dont nul cri, nul incident n'a troublé le déroulement. Des monceaux de fleurs, gerbes coûteuses ou humbles bouquets ont donné le ton de la piété populaire. Ce cortège funèbre, qu'on l'évalue à 150 000 ou à 1 million de présences, avait la valeur d'une affirmation solennelle: il ne faut plus que la paix intérieure soit troublée.
Avec mon père, on est allé à l'enterrement. On s'est retrouvés place de la République, juste derrière le portrait de Daniel Ferry, un lycéen de 15 ans qui avait été tué. Il avait mis dans un cercueil tout blanc, sur un char recouvert de fleurs blanches, parce que c'était un enfant. Il y avait des fleurs partout, des couronnes, des bouquets. Ça tournait la tête tellement il y avait des fleurs. On a marché jusqu'au Père Lachaise, sous la pluie. À midi, il y a même eu un orage, mais on a continué à marcher comme s'il pleuvait pas. Il y avait un silence incroyable. Il y avait des gens qui pleuraient. Et tous ces gens qui se connaissaient pas et qui marchaient vers quelque chose. Et c'était vers un cimetière.
Au Père Lachaise, la même foule, le même silence. La tristesse des familles éprouvées, une fleur qu'on jette sur un cercueil, une femme évanouie qu'on emporte. Et par-dessus tout, la conscience d'un peuple.
14 février 1962, obsèques des victimes de la manifestation du 8 mai.
Comment va être traité cet événement par la suite, Tramore-Kémeneur ? Y a-t-il des poursuites judiciaires ? Quel bilan peut-on faire de l'événement ? Combien de morts ? Combien de blessés ? Y aura-t-il des poursuites contre certains des membres des forces de l'ordre par la suite ?
Alors ce qui se passe, c'est qu'on arrive à la toute fin de la guerre d'Algérie, on est en février 1962, les accords d'Évian entrent en vigueur le 19 mars, donc on est véritablement à quelques semaines de la fin de la guerre d'Algérie. Et ce qui se passe, effectivement, même si des mesures sont entreprises, immédiatement après, en fait, on a les mesures d'amnistie qui sont mises en place au fur et à mesure, et donc notamment les forces de l'ordre sont amnistiées de tous les faits qui sont liés au maintien de l'ordre dans la guerre d'Algérie.
Ici, le 8 février 1962, au cours d'une manifestation du peuple de Paris pour la paix en Algérie, 9 travailleuses et travailleurs, des communistes, des militants de la CGT, dont le plus jeune avait 16 ans, sont morts victimes de la répression. Jean-Pierre Bernard, Fanny De Werp, Daniel Ferry, Anne-Claude Godot, Édouard Lemarchand, Suzanne Martorell, Hippolyte Pina, Maurice Pochard, Raymond Wingens.
Voilà, nous avons écouté avec vous, Sylvain Boulouk, ce reportage donc d'Anaïs Quien, d'Hélène Langlois et de Véronique Samouilov sur les traces de ce massacre du métro Charonne à Paris. C'est un moment important de cette guerre d'Algérie, généralement peut-être un peu oublié aujourd'hui dans la mémoire de la guerre d'Algérie. On lui privilégie peut-être le 17 octobre 61, le massacre des Algériens à Paris.
Oui, alors c'est intéressant parce qu'il y a eu plusieurs temps dans cette histoire. Il y a un massacre qui est aujourd'hui pratiquement complètement oublié, ou en tout cas une forme de répression policière qui a été complètement oubliée, même si elle ressurgit depuis quelques mois ou quelques années. C'est le 14 juillet 1953 où 7 Algériens ont été massacrés à l'arrière d'une manifestation de la CGT pour le 14 juillet. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, depuis les années 1980, le 17 octobre 61 est devenu la référence des massacres en métropole conduits par la police française. Et il y a un troisième événement qui s'est déroulé donc juste à la fin de la guerre d'Algérie, le fameux massacre de Charonne, où au contraire, pendant très longtemps, ça a été le massacre qui a été, ou la répression policière plus exactement, qui a été le plus étudié, le plus porté.
Le plus médiatisé en particulier par le Parti communiste.
Et le plus médiatisé par le Parti communiste, mais pas que. Parce que quand on écoute la chanson française, par exemple, Juliette Gréco chante une chanson qui s'appelle « Je t'attends à Charonne ». Lenny Escudero, qui est un chanteur contestataire des années 60-70, qui est mort dernièrement, reprend cette même chanson et en fait une deuxième qui s'appelle « L'un s'appelait Sacco et l'autre », où il évoque justement les morts de Charonne. Puis troisième chose, Renaud, qui avant de chanter son amour de la police tout à fait dernièrement, dans Hexagone, mentionnait que Charonne, les matraqueurs assermentés, fignolèrent leur besogne. Donc il y a eu une mémoire de Charonne, et ça nous renvoie directement à la mémoire de la guerre d'Algérie, il y a une mémoire de Charonne qui en fait a été très présente. Alors, fortement porté par le Parti communiste qui évoquait le souvenir de ces morts. Du coup, ça a occulté les autres mémoires des victimes de la guerre d'Algérie pendant un certain temps, avant de à son tour, sombrer dans l'oubli ou décliner en raison justement du fait que les autres mémoires coloniales ont pris le dessus sur la mémoire communiste.
Ce qui d'ailleurs peut être utile quand on travaille sur la question des mémoires en général, c'est de montrer effectivement qu'il n'y a pas de mémoire sans porteur de mémoire, Sylvain Boulouk. Et donc quand un parti communiste à 20% ou à 25% des voix porte la mémoire des morts de Charonne et qu'une des forces de gauche porte cette mémoire pendant longtemps, eh bien elle est présente dans l'espace public et peut-être aujourd'hui où cette mémoire de gauche est peut-être moins importante ou en tout cas plus abîmée, eh bien ces morts de Charonne sont moins importants dans la mémoire collective.
Pour qu'il y ait une mémoire, il faut qu'il y ait des gens qui entretiennent la mémoire. S'il n'y a plus personne pour entretenir la mémoire, il n'y a même plus de devoir de mémoire puisqu'il y a disparition des personnes, des acteurs. Alors même si après, il y a un deuxième temps qui est le temps des historiens où on commence à faire autre chose que de la mémoire, c'est-à-dire l'histoire. Et là, il y a eu des controverses historiques sur Charonne assez importantes puisqu'on a eu deux ouvrages totalement différents qui avaient paru il y a une dizaine d'années. Le premier de Jean-Paul Brunet et le second de... sur Charonne. Le second d'Alain de Verpe qui a fait un fort volume de plus de 600 pages, qui était en même temps, c'est ça qui est intéressant, le fils de Fanny de Verpe, morte
pendant cette manifestation
et écrasée dans les escaliers du métro.
Alors, si nous abordons la guerre d'Algérie elle-même, telle que vous l'enseignez aux classes de terminale STMG, il faut préciser que cette épreuve pour les terminales STMG est différente des épreuves du bac général et qu'elle comporte en particulier un texte que je vais lire donc et qu'il faut questionner quand on est élève et sur lesquels on est questionné. Ce texte, c'est la proclamation du FLN le 1er novembre 1954. Nous considérons avant tout qu'après des décades de lutte, le mouvement national a atteint sa phase finale de réalisation. En effet, le but du mouvement révolutionnaire étant de créer toutes les conditions favorables pour le déclenchement d'une action libératrice, nous estimons que sur le plan interne, le peuple est uni derrière le mot d'ordre d'indépendance et d'action, et sur le plan externe, le climat de détente est favorable pour le règlement des problèmes. Les événements du Maroc et de Tunisie sont à ce sujet significatifs et marquent profondément le processus de lutte de libération de l'Afrique du Nord. Une équipe de jeunes responsables et militants conscients, ralliant autour d'elle la majorité des éléments sains et décidés, a jugé le moment venu de sortir le mouvement national de l'impasse où l'ont acculé les luttes de personnes et d'influence. Notre action est dirigée uniquement contre le colonialisme, seul ennemi obstiné et aveugle qui s'est toujours refusé à accorder la moindre liberté par des moyens pacifiques. Notre mouvement de rénovation se présente sous le nom de Front de Libération Nationale, se dégageant ainsi de toutes les compromissions possibles et offrant la possibilité à tous les patriotes algériens de toutes les couches sociales, de tous les partis et mouvements purement algérien, de s'intégrer dans la lutte de libération sans aucune autre considération. But, indépendance nationale, par, primo, la restauration de l'État algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques. Secondo, le respect de toutes les libertés fondamentales sans distinction de race ni de confession. Moyen de lutte, conformément aux principes révolutionnaires et compte tenu des situations intérieures et extérieures, la continuation de la lutte par tous les moyens jusqu'à la réalisation de notre but. Algériens, nous t'invitons à méditer notre charte ci-dessus. Ton devoir est de t'y associer pour sauver notre pays et lui rendre sa liberté. Le Front de Libération Nationale est ton front, sa victoire et la tienne. C'est l'original d'un tract distribué à Alger le 1er novembre 1954. En l'occurrence, évidemment, il y a des coupures dans ce texte. Ça n'est pas le texte intégral. Sylvain Boulouk, qu'est-ce qu'on fait de ce texte-là quand on est en terminale STMG ?
Alors, d'une manière générale, en histoire, quelle que soit l'année, hein, ça commence en seconde, voire même, on peut le faire dès la troisième, on présente un texte. Donc, présenter un texte, c'est tout simplement rappeler son auteur, la nature du document, le destinataire du document, la date du document, et puis le le contexte dans lequel est rédigé le document. Donc on a ces cinq points principaux à évoquer en premier lieu. Et après, pour alors ça c'est la règle pour tout le monde. Après, pour le bac STMG, enfin le bac, donc on a un certain nombre de questions qui viennent pour préciser un certain nombre de points. Alors si on se réfère à ce document, il y a un et en fait plusieurs auteurs. C'est-à-dire qu'il y a un auteur principal qui est Mohamed El-Shaïaoui. Et en fait, la plume, c'est un journaliste proche, enfin, qui est membre du FLN, et il tenait la plume alors qu'il y a deux responsables du FLN qui lui dictaient le trac, qui sont Mohamed Boudiaf et de l'autre côté Mourad Didouche. Cet ensemble de personnes, en fait, sont les fondateurs d'un groupe qu'on appelle le FLN, qui est lui-même une scission d'un parti politique qui est le Parti Messaliste, donc le Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques.
Le MTLD,
qui est un mouvement nationaliste algérien, mais qui hésite à basculer dans l'opposition armée à la France. Donc il y a une partie des militants du MTLD qui ont participé à un petit groupe armé qui s'appelle l'Organisation Spéciale ou l'Organisation Secrète, alors que la majorité de ces militants du MTLD voulaient continuer à avoir une action politique plus traditionnelle et plus classique. Donc ça, c'est pour l'arrière-plan qui a rédigé le tract, et on a 9 dirigeants qui vont devenir les futurs dirigeants
du FLN.
FLN, qui donc est une organisation politique, à côté de cette organisation politique, on va voir très très rapidement, juste après le début du mois de novembre, l'ALN, donc l'Armée de Libération Nationale, qui constituera le bras armé du FLN. Donc ça, c'est pour les auteurs et pour j'ai déjà développé le contexte alors que j'aurais pas dû, pour les auteurs. Ensuite, deuxième chose, c'est la nature du document. Alors, quel type de document on a affaire très simplement à une proclamation. Donc c'est avertir l'ensemble de la population algérienne que la phase de compromis ou d'entente avec le colonisateur n'est plus possible et qu'il faut passer à une guerre qui va durer comme on le sait 8 ans. Alors là, on fait pas ça normalement non plus, on n'annonce pas ce qui va se passer après, on reste à la date du document qui est mentionné. Donc guerre qui a... Par contre, on peut dire que ce tract annonce le début de la guerre d'Algérie et vient clore toutes les tentatives de négociation qui ont pu exister auparavant. Et qu'en même temps, c'est le jour où ont lieu un certain nombre d'attentats revendiqués par le FLN et qui marquent, alors, soit le début de la guerre d'Algérie, soit le début des opérations de maintien de l'ordre en fonction du point de vue qu'on adopte. Le destinataire principal de ce texte et de ce document, c'est le peuple algérien, qui est mentionné. Accessoirement, c'est aussi le colonisateur pour lui dire que maintenant il n'y aura plus de négociation possible. Et dernièrement, dans la population algérienne, c'est aussi à l'adresse des principaux responsables nationalistes qui sont pas favorables à la lutte armée pour leur dire attention, maintenant nous on a changé de position et il n'est plus possible de continuer à négocier. Donc c'est ce qui indique le passage à justement la lutte armée d'une partie des militants nationalistes. La date 1954, alors il faut faire attention à la date dans le contexte international et à la date propre du mouvement national algérien. Alors je commencerai par le contexte international puisque 54, c'est quand même une année qui est un peu cruciale. La guerre d'Indochine vient de se terminer par la défaite française à Dien Bien Phu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point important, la France est, elle, traversée par des alternances gouvernementales qui ont été liées à, justement, cette guerre d'Indochine. Et on est dans la quatrième République. Après, dernier élément qu'il faudrait peut-être mentionner dans cette présentation globale de l'année 54, c'est la situation qui existe en Algérie, pourquoi il y a cette révolte également. Il faut rappeler que l'Algérie est une colonie de peuplement depuis le 19e siècle. Qu'en Algérie, il y a environ 1 million d'Européens et 9 millions d'Autochtones, donc 9 millions d'Algériens qu'on appelait les musulmans algériens, et que l'Algérie, ça c'est vraiment très important, l'Algérie constitue trois trois départements français. C'est-à-dire que c'est un type de colonie qui n'est pas du tout le même que
le Maroc ou la Tunisie voisine,
qui sont des protectorats. Donc on est dans une situation coloniale relativement différente de la situation...
Des autres colonies.
On pourrait ajouter qu'on est vraiment dans la phase de décolonisation à l'échelle internationale, puisque l'Inde a été décolonisée en 1947, l'Indonésie aussi, et l'Indochine, je viens de le dire.
Donc ça, ce sont les éléments de contexte qui permettent de découvrir comment ce texte se situe dans le contexte international, mais aussi dans le contexte français, voilà. Et dans le contexte des combats des Algériens pour une indépendance ou une autonomie.
Et même peut-être des Algériens entre eux, parce qu'il faudrait, alors là j'exagère et je pousse loin dans les détails, mais il faudrait aussi rentrer dans les différentes composantes du mouvement national algérien, puisque le mouvement national algérien n'a jamais été unifié, mais on a trois voire quatre composantes de ce mouvement national algérien. Première composante, c'est une composante religieuse qui a émergé dans les années 20 avec les oulémas. Deuxième composante, c'est une composante nationaliste, mais plutôt de gauche, avec ce qu'on appelle les messalistes, donc qui ont fondé d'abord le PPA, le Parti du Peuple Algérien, puis Parti du Peuple Algérien qui a été interdit, donc qui devient après le NTLD, qui va lui-même être interdit juste après les événements de novembre
1954.
De 1954 pour devenir le mouvement national algérien. Et troisième courant, les plus jeunes du NTLD qui vont passer justement au FLN et qui vont former le bras armé, le bras le plus revendicatif du FLN.
Alors ça, c'est donc le contexte, mais on se pose des questions sur ce texte-ci en particulier. Vous avez donc expliqué quelle était l'origine de cette proclamation, à quelle occasion il a été publié, mais peut-être aussi se poser des questions sur le type d'action qui veut être prôné dans un texte comme celui-ci et en quoi il est différent des autres types d'action.
Alors, type d'action, en effet, puisqu'on passe de revendications qui étaient des revendications exclusivement ou explicitement politiques à des revendications et à ce qu'on appelle la lutte armée. C'est-à-dire qu'on change complètement de terrain d'action. On n'est plus dans la construction
d'une citoyenneté,
la recherche d'une citoyenneté. On est réellement dans la volonté de rompre avec le colonialisme par des moyens extra-légaux, puisque en même temps que cette proclamation est rédigée, il y a une série d'attentats qui sont effectués, attentats qui font faire plusieurs dizaines de victimes. Donc on est vraiment dans une nouvelle phase qui a commencé avec cet attentat. Et donc, ça indique clairement, et les membres du FLN indiquent clairement qu'il n'est plus question pour eux de vouloir négocier quoi que ce soit, mais qu'ils sont lancés dans un processus qui doit aboutir automatiquement à l'indépendance.
Alors, si on a un texte et qu'on doit le commenter, j'imagine qu'on doit s'intéresser aussi aux mots, aux termes tels qu'ils sont présentés, tels qu'ils sont posés par les rédacteurs de cette proclamation du FLN du 1er novembre 1954,
si bien vous le. Oui, on doit donc faire attention au vocabulaire qui est employé. Là, on voit qu'on est dans un vocabulaire à la fois de rupture et un vocabulaire guerrier. On a changé par rapport à d'autres textes qu'on a pu étudier auparavant, on a changé de dimension. On est vraiment passé dans la volonté explicite de qualifier l'adversaire et de passer à la lutte armée. Alors ça renvoie aussi à des éléments historiques plus lointains, c'est-à-dire que les différentes tentatives qui a pu avoir pour obtenir pour les Algériens une citoyenneté ont toutes été des échecs. Et il y a eu, deuxième chose qu'il faut peut-être rappeler, des massacres qui ont précédé, comme le massacre de Sétif en 1945,
le 8 mai 1945,
où justement des Algériens manifestaient pour fêter plus ou moins la libération, une manifestation qui tourne à l'émeute et
avec
des Européens qui sont massacrés, l'armée française intervient et on est dans une phase de violente répression. Et ça, c'est un phénomène qui dure. Alors, le phénomène répressif est présent tout le temps. Deuxième chose, un certain nombre d'élections devaient avoir lieu pour désigner des représentants algériens envoyés à l'Assemblée algérienne et systématiquement, il y a eu des manipulations électorales. Donc, les Algériens en tant que tels refusent de continuer à tenter de trouver une... Enfin, une partie des Algériens, en tous les cas, refusent de tenter de trouver une solution négociée et veulent passer une nouvelle étape et un nouveau type de combat.
Voilà, notre action dirigée uniquement contre le colonialisme, seul ennemi obstiné et aveugle qui s'est toujours refusé à accorder la moindre liberté par des moyens pacifiques. Alors, une des questions, c'est est-ce que dans ce type de copie, la façon dont on traite ce type de document, on reprend des éléments du discours tel que pour pouvoir appuyer ses propres dires?
Alors, on a effectivement le droit tout à fait de reprendre des éléments du texte pour justement avancer et développer le plus possible l'argumentation. Toujours en s'appuyant sur autre chose, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire ce qu'on appelle de la paraphrase, c'est-à-dire répéter uniquement le texte. C'est-à-dire qu'on doit avoir des éléments de connaissance extérieurs au texte. C'est-à-dire qu'on doit savoir... un certain nombre de choses comme quelle est la situation internationale. Par exemple, savoir que les Vietnamiens viennent d'être indépendants en ayant conduit une guerre qui n'est pas du tout la même, mais conduit 9 ans de guerre qui les ont menés à l'indépendance. Donc il faut avoir un certain nombre d'éléments présents à l'esprit pour pouvoir justement
nourrir sa copie.
Et deuxième chose, avoir aussi l'idée que ce statut des Algériens n'est pas du tout le même que le statut des Français vivant en Algérie.
Alors, donc, on a cette capacité à analyser ce texte, à mobiliser des connaissances qui viennent d'ailleurs et des cours qu'on en a reçus à côté pour pouvoir justement nourrir son travail sur ce texte. Est-ce qu'on insiste sur le type d'idéologie telle qu'elle est proclamée par ce texte-là, et donc pas simplement cette idéologie de rupture que vous avez décrite tout à l'heure, Sylvain Boulouk, par rapport aux tentatives plus anciennes de prise de citoyenneté ou de développement de la citoyenneté pour les citoyens algériens, mais est-ce qu'on insiste sur le fait, par exemple, que le but de l'indépendance nationale par la restauration de l'État algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques, par exemple ?
Alors, il faut effectivement voir ces différentes dimensions, peut-être leur donner un sens, pas forcément tout expliquer, mais leur donner un sens. Le sens général, donc j'y reviens parce que c'est important, c'est le phénomène de la décolonisation. Il faut avoir à l'idée, deuxième chose importante, c'est qu'on est aussi en guerre froide, donc que les nations qui aspirent à être indépendantes vont ou sont plus ou moins sommées de choisir leur camp, soit elles deviennent indépendantes et elles rentrent dans l'orbite pro-américaine, ou plus majoritairement, elles rentrent dans l'orbite soviétique. Sauf que va arriver un autre événement. Alors là, j'anticipe sur ce qu'on devrait dire par la suite, ce qu'on n'a pas le droit de faire normalement, je répète. J'anticipe un peu, puisqu'on a un troisième bloc qui est en train de se créer, qu'on va appeler l'année suivante le tiers-monde. Donc on a une troisième force qui est en train d'émerger, où on voit un groupe qui serait ni à l'est ni à l'ouest, avec les pays dits, entre guillemets, du sud, qui sont en train de se constituer et qui vont être une force d'appui importante, justement, pour les nationalistes algériens dans cette guerre d'Algérie, ils vont servir d'écho et de caisse de résonance à l'échelle internationale. Alors, mais j'anticipe sur la suite, sur les
termes... Je vous laisse continuer, alors, si vous voulez.
Sur les termes qui doivent être employés, c'est-à-dire qu'on voit quand même des références multiples, la référence à la démocratie, qui est importante. Alors, on verra... Enfin, alors là aussi, je dis des choses qui sont par anticipation, la référence à la démocratie qui n'aboutira pas forcément, la référence au social, alors c'est les deux éléments, la démocratie, c'est parce que les Algériens ont été privés de démocratie et qu'ils en voudraient une, la référence au social, c'est que le statut des Algériens fait qu'ils ne sont pas dans la même situation que les citoyens français, donc ils aimeraient bien avoir les mêmes droits qu'ils n'ont pas eu jusqu'à maintenant, et donc c'est une revendication.
Et puis le cadre des principes islamiques.
Et le cadre des principes islamiques, alors là c'est un élément qui est en porte-à-faux avec une partie du courant nationaliste algérien qui était plutôt laïque pour une grande partie d'entre lui. Là il y a une réaffirmation du phénomène religieux qui fait que le FLN porte en lui une double dimension, à la fois sociale mais en même temps religieuse, ce qui, alors on ne va pas rentrer tout de suite sur ce à quoi ça aboutira à la fin de la guerre d'Algérie, mais ça entraîne une transformation même par rapport au reste
du mouvement national algérien.
Du mouvement national algérien et plus largement des mouvements dits de libération nationale dans l'ensemble de la planète.
Alors qu'est-ce qu'on continue comment ce type de copie, en l'occurrence Sylvain Boulouk ?
Alors il y a deux possibilités. Soit on est dans le cadre d'une... après d'une explication globale sur ce qu'est ce texte et on reste sur le texte. Après, il y a une deuxième possibilité, c'est de faire une phase de révision plus large sur ce que je vous propose maintenant, sur la guerre d'Algérie et les grandes phases de...
Donc on sort du texte lui-même et on se dit, voilà, ce texte, c'est le début de ce qu'on a appelé plus tard la guerre d'Algérie, des événements d'Algérie, disait-on à l'époque, le 1er novembre 1954 avec la proclamation du FLN et les attentats qui sont liés à cette proclamation. Et donc, on va vers la suite, comment se développe la guerre d'Algérie. Oui. Dans une copie, on explique ça.
Oui, alors normalement, il y a dans les bacs STMG au sens large, il y a une série de questions qui amènent à répondre à ce que peut être la guerre d'Algérie. Enfin, il y aura une série de questions pour voir...
Par exemple, une question comme concluer en montrant le nouveau rôle que joue le FLN après le 1er novembre 1954 et expliquer s'il a atteint ses objectifs. Non. Donc si on pense à atteindre ses objectifs, il faut aller jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie.
Il faut aller jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie. Donc c'est cette série d'attentats qui accompagne la proclamation du FLN entraîne le début de la guerre d'Algérie. Début de la guerre d'Algérie qui comporte plusieurs phases. Alors là, il va falloir distinguer grosso modo globalement les phases, en sachant que la guerre d'Algérie, c'est à la fois une guerre entre les Français et les Algériens, et c'est deux guerres dans la guerre. C'est-à-dire une guerre algéro-algérienne et une guerre franco-française. Alors je vais commencer par ce qui est le plus simple, c'est-à-dire l'affrontement entre les Français et les Algériens. Affrontement entre les Français et les Algériens, donc on a grosso modo trois, quatre grandes phases. Première grande phase, c'est ce qu'on appellerait la drôle de guerre d'Algérie, donc on qualifie en fait d'événement d'Algérie, qui va de ce 1er novembre 1954 jusqu'à 1955, voire 1956, avec des opérations armées, une guerre qui ne dit pas son nom, hein, d'où l'expression ultérieure de la guerre sans nom, une phase de rupture qui va marquer réellement le début de la guerre d'Algérie avec l'envoi du contingent en Algérie qui est le mois d'août 1955. Donc ça, c'est première phase de la guerre d'Algérie. D'abord, une phase d'opération, d'escarmouche, de guerre de guérilla. Deuxième grande phase, c'est ce qui marque la guerre, la phase la plus terrible de la guerre, où la répression va être la plus intense, c'est les années de 55 à 58, où là, on assiste à une guerre dans la guerre du côté algérien, qui va se résoudre relativement rapidement. Donc, il y a d'une part les Français et les Algériens qui s'affrontent avec une victoire ni une défaite des Algériens sur un plan militaire, situation qui reste stable. Et deuxième chose, le FLN qui va imposer sa prédominance dans le camp national algérien. C'est-à-dire que le FLN va éliminer ou intégrer à lui toutes les autres forces nationalistes, avec un exemple qu'il faut mieux connaître, qui est l'élimination des messalistes, donc des pionniers du nationalisme algérien, avec un massacre...
Et du mouvement du MNA en particulier.
Et du mouvement du MNA, avec un massacre en particulier, qui est le massacre d'un village considéré comme pro-messaliste en 1957, qui est le massacre de Mélouza, qui fera dire à Albert Camus, l'écrivain journaliste français,
originaire d'Algérie,
qui était partisan d'une paix négociée à ce moment-là, qui fera écrire à Albert Camus dans des petites revues confidentielles comme La Révolution prolétarienne, puisque personne n'accueille ce propos, que le FLN prend un tour tout à fait totalitaire avec cette élimination de tous les autres dirigeants nationalistes. Donc on a cette guerre dans la guerre qui se termine en 1957-58, puisque les autres forces sont obligées de facto de rentrer dans
l'orbite du FLN.
Dans l'orbite du FLN, il y a une dissolution du Parti communiste algérien qui est obligé de rentrer lui aussi dans l'orbite du FLN. Donc ça, c'est pour la phase de la guerre algéro-algérienne qui se termine en fait en 1958.
Et 1958, c'est aussi le retour du général de Gaulle au pouvoir, oui. et donc un changement aussi de stratégie.
Il y a un changement de stratégie avec le retour de Gaulle au pouvoir. Donc recours de Gaulle au pouvoir qui est lié à une multiplication des escarmouches conduites par le FLN qui entraîne des pertes importantes dans l'armée française, qui génère un mécontentement des militaires, qui crée les conditions du retour de Gaulle au pouvoir. Donc de Gaulle arrive au pouvoir le 13 mai 58, se rend très rapidement en Algérie avec une phrase tout à fait sibylline, qui est « Je vous ai compris ». Alors, on ne sait jamais qui l'a compris réellement, même s'il y a un deuxième discours après où il dit « Vive l'Algérie française ». Donc, le sibyllin est peut-être moins sibyllin que l'on veut bien croire. Donc, De Gaulle, je rappelle, est militaire de carrière, et donc explique qu'il faut gagner militairement la guerre pour après pouvoir envisager toute forme de négociation. Et donc, il entame une campagne militaire qui est en fait une forme de casse-noisette, c'est-à-dire qu'il prend de chaque côté. L'armée française part de la frontière tunisienne d'un côté et de la frontière marocaine de l'autre et va ratisser l'ensemble du territoire
algérien.
En éliminant la majorité des membres du FLN. Avec, deuxième chose qu'il faut quand même rappeler, un certain nombre d'actes de torture et, maintenant qu'un président de la République l'a dit, on peut le dire, de crimes contre l'humanité qui ont été commis. Plutôt des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, plutôt des crimes de guerre du reste. Donc, militairement, l'armée française l'emporte. Mais politiquement, à cause des exactions commises et à cause d'un certain nombre de tribunes internationales, politiquement, la France perd à l'échelle internationale la guerre d'Algérie et est obligée d'entrer dans des négociations et donc de négocier, et ce sera le troisième grand temps, la fin de la guerre d'Algérie. Fin de la guerre d'Algérie, et je vais être rapide parce que sinon on n'aura pas le temps de finir la copie. Donc fin de la guerre d'Algérie qui est marquée par les accords d'Évian en mars 62. Fin de la guerre d'Algérie qui est aussi marquée par un certain nombre d'attentats non plus
du FLN,
mais de l'organisation armée secrète, donc de l'extrême droite française. Fin de la guerre d'Algérie.
Des défenseurs
de l'Algérie française. Guerre d'Algérie qu'il faut terminer sur un bilan. Donc bilan qui est de environ 250 000 victimes avant les accords d'Évian et 250 000 victimes après les accords d'Évian, dont on ne sait pas toujours qui sont exactement les auteurs des victimes. Voilà pour l'essentiel, je crois que...
On est arrivé presque au bout de la copie.
Et pour terminer, alors juste, et pour réviser la guerre d'Algérie de manière utile plutôt que toujours se plonger dans les manuels, il y a une bande dessinée tout à fait intéressante. On peut travailler autrement que juste avec des livres d'histoire. Il y a des bandes dessinées historiques, il y en a une qui a été faite par un des meilleurs spécialistes de la guerre d'Algérie, Benjamin Stora, et un dessinateur qui s'appelle Sébastien Vassan, qui est une histoire dessinée de la guerre d'Algérie, qui est un excellent moyen et un moyen très agréable et ludique
de découvrir l'histoire
et de réviser de manière originale en vous intéressant au sujet.
Est-ce que une ou deux questions sont à prendre dans la salle? Oui, je vois une main qui se lève là-haut. Jeune homme, allez-y.
C'est quoi la référence de la bande dessinée?
Ah voilà, alors on le redit.
Sébastien Vassan et Benjamin Stora, histoire dessinée de la guerre d'Algérie.
Alors, pour ce qui est des questions des mémoires, en l'occurrence, Sylvain Boulou, qu'est-ce qu'il faut dire quand on complète une copie et qu'on veut rajouter quelque chose sur la question des mémoires de la guerre d'Algérie?
Oui, ou alors commencer à réviser pour les terminales L, ES et S sur les mémoires, puisqu'il y a une des deux questions d'histoire qui est la question de la mémoire de la guerre d'Algérie. Donc, on peut dire qu'en fait, on a trois voire quatre mémoires de la guerre d'Algérie. La mémoire algérienne portée par les vainqueurs de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire le FLN, qui est une mémoire tout à fait officielle, la mémoire constitutive d'un État. Deuxième chose, les mémoires françaises de la guerre d'Algérie, Parce qu'on a effectivement plusieurs types de mémoires dans cette guerre d'Algérie. D'une part, la mémoire de ce qu'on appelle les rapatriés d'Algérie, c'est-à-dire les pieds noirs, qui est une mémoire assez douloureuse de la guerre d'Algérie, ce qui explique un certain nombre de conflits encore autour de la guerre, enfin de conflits mémoriels autour de la guerre d'Algérie, parce que leur perception de l'histoire de la guerre d'Algérie est renvoyée à une histoire uniquement coloniale, ce qui n'a pas été pour eux que cette histoire coloniale. Deuxième chose, la mémoire des Français qui sont allés se battre en Algérie. Pour eux aussi, c'est une mémoire douloureuse et souvent une mémoire silencieuse. Il a été très rare de parler de la guerre d'Algérie pendant très longtemps quand on a été soldat en Algérie. Et troisième mémoire importante aussi, parce qu'elle a marqué pendant très longtemps l'historiographie française et l'histoire de France, c'est la mémoire de la gauche française par rapport à la guerre d'Algérie, qui était à la fois une mémoire culpabilisante et culpabilisée, parce que les Français, enfin la gauche française estimait en avoir fait ne pas en avoir fait assez pour que l'Algérie soit indépendante plus rapidement et qu'on évite un certain nombre d'exactions qui ont pu avoir lieu. Donc on a ces différentes mémoires. Et enfin, une dernière chose, les mémoires des Algériens vaincus, que ce soit les mémoires des messalistes dont on parlait tout à l'heure, donc des vaincus parce qu'ils étaient ils étaient opposés au FLN et ils ont été éliminés. Et deuxième chose, la mémoire des Algériens vaincus parce qu'ils étaient pour le partisan du maintien de la France en Algérie.
Donc
la mémoire des harkis, qui est aussi, alors qui est encore plus tragique, parce que pour beaucoup d'entre eux, ils ont été abandonnés en Algérie, et pour ceux qui ont survécu, ça a été dans des conditions relativement dramatiques.
Sans compter ceux qui ont été massacrés au moment de la libération de l'Algérie ou dans les mois qui ont suivi. Merci Sylvain Boulouk. Je rappelle que vous êtes professeur au lycée Gustave Eiffel de Rueil-Malmaison et que vous êtes venu avec vos élèves. Il y avait avec nous les élèves de terminale STMG et une classe de première ES de ce lycée Gustave Eiffel. Merci à toutes et merci à tous. Cette émission se termine. Il faut remercier Aurélie Marsay qui a préparé cette série d'émissions consacrée au bac comme chaque année. L'équipe technique de Radio France, Olivier Dupré, Émilie Couette, Célia Dufour, Titouan Ouex, Chardonnay Stevens et Véronique Samouilov. Donc voici tous ceux qui ont permis la réalisation de cette émission. Nous nous retrouvons demain pour pouvoir traiter d'un autre sujet, un sujet autour de l'Europe, de sa construction en tant qu'Europe politique. Nous le ferons en compagnie de Renaud Dartevel, professeur au lycée Jean-Pierre Timbaud de Bretigny-sur-Orge. Et nous aurons avec nous donc une possibilité de nous promener dans, radiophoniquement bien entendu, dans le lieu même du Parlement européen à Strasbourg. À demain. Si vous voulez écouter cette émission ou toutes les autres, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr.